Si loin, si proche, le magazine des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Tari, il est midi 5 et la température est de 20 degrés. Au revoir, très bonne journée et très bon séjour sur Tari.
La région de la Drare est une région qui a pour économie deux revenus. Le premier depuis toujours a été la récolte des dattes. Et cette économie qui est le tourisme. Donc le retour de l'avion est une pièce maîtresse dans cette économie. C'est très très important de savoir que le touriste qui débarque dans cet avion n'a que avec lui son sac. Ça veut dire qu'il fait travailler le guide, le cuisinier, les chauffeurs, les aubergistes, les chameliers. Donc c'est vraiment des retombées directes déjà pour aux populations qui fait que pendant donc les 6 mois de la saison, les gens peuvent vivre de cette activité et même pendant les 6 autres mois pour subvenir à leurs besoins. Donc le retour de l'avion est vraiment le poumon de l'activité et de l'économie de cette région.
Bonjour, cela faisait 10 ans que les Mauritaniens du désert l'attendaient, cet avion. 10 ans sans voir le moindre voyageur français, 10 ans sans aucun revenu de ce tourisme. Alors que cette économie était devenue cruciale pour les populations locales, l'hiver, tout du moins comme vient de le dire Kadi Mehdi, de l'agence Mauritanie, pionnier du tourisme dans la région. Cette semaine, on débarque avec Raphaël Constant en Mauritanie, au cœur de la Drare, là où depuis décembre 2017 est la relance des vols sur Attar en plein désert. Chaque atterrissage d'avion est vécu comme une petite victoire. Maurice Freund, le fondateur de la coopérative de voyageurs Point Afrique, en sait quelque chose. Pendant des années, il s'est battu pour faire réouvrir la zone sahélo-saharienne, déclarée zone interdite aux touristes, en rouge, par le ministère des Affaires étrangères français. Désormais, la Drare mauritanien est classée orange. On lève le nez de la carte du Quai d'Orsay pour se pencher à présent sur un autre genre de carte.
Alors ça, c'est la carte de la Drare mauritanien que tu viens d'ouvrir.
Ouais.
C'est une carte qui est manuscrite, on voit du jaune pour la mer de sable, j'imagine.
Et tu as le vert, c'est les montagnes, les plateaux. Et ça, c'est rouge, c'est la route.
Pour chercher les oasis, il faut chercher les petits palmiers sur la carte.
Ouais, c'est des petits palmiers qui sont sur les falaises, donc on voit. Je vous montre le périple qu'on va faire. Donc, Attar, arrivé par le vol. D'Attar, on a pris la route. Avant d'arriver à Yaqref, 85 km d'Attar, on a contourné à gauche vers Azouéga. Donc la dune, notre premier bivouac, c'est Azouéga. Elle est là.
Donc ça, c'est l'air du sol qu'on a vu.
Donc ça, c'est
Amatlish.
Donc Wadan, Onouge, Tanouchur, Tanouchur, Tirkaouyar, Irkaouyar, Tchingiti. Et puis il y a Zarga, Galbawolou, Dakhlet Limaïs, Tevrent, Berber, Timini, Tamagazine.
C'est des noms qui font voyager.
Ah ouais? À chaque fois qu'on passe dans les endroits d'ici, tu trouves des gens accueillants, souriants. Ils te font oublier les autres que tu les as croisés hier, par exemple.
Devant la carte de la Drare, aux allures de carte d'écolier dessinée par le topographe de Théodore Monod, grand amoureux lui aussi du désert mauritanien, Raphaël et Sid Ahmed sont déjà très loin des consignes ministérielles et sécuritaires. Sid Ahmed, c'est le guide qui pendant une semaine va conduire le circuit de Point Voyage qu'a suivi Raphaël avec 7 touristes depuis Attar jusqu'à Ouadane en passant par Tergit ou Chinguetti avec à chaque étape comme un parfum de retrouvailles. Le désert, ses immensités époustouflantes et son peuple semi-nomade, pacifique et attachant ouvre à nouveau leurs portes et leurs bras et nous, on se plonge avec Raphaël dans cette mer de sable.
En face de nous, il y a une dune immense.
Ah, la plus haute dune de la Mauritanie, on dit. On l'appelle la dune d'Azouéga, environ 70 mètres d'altitude.
C'est une dune de sable, et d'un côté, sur notre gauche, elle est plutôt ocre, et sur notre droite, elle est plutôt beige, parsemée par des touches blanches. C'est pas la même couleur.
Oui, c'est l'érosion, donc elle n'est pas loin des plateaux, donc on a l'érosion, surtout le vent qui souffle sur la roche, et que c'est elle qui fabrique le grain de sable sur le dune.
Bon, allez, on grimpe.
On grimpe.
On s'enfonce jusqu'aux chevilles, quoi.
Donc, c'est vrai qu'on est sur la moitié de la dune d'Azuega. Donc, on voit devant nous des troupeaux de moutons, des chèvres et puis des oasis. Le Sahara, c'est l'habitation nomade mauritanienne. Et donc, on vit à côté de ces montagnes, ces dunes et ces ergues. Et on vit une vie de transhumance.
Et tu es guide depuis combien de temps dans le désert, dans le Sahara ?
Dans le Sahara depuis 1999. Je suis guide comme... j'accompagne les groupes de touristes. Sinon, avant, j'étais toujours dans le désert avec mes parents, dans les montagnes de Galbraith. C'est grâce à ça que je suis là, guide accompagnateur, pour me faire comprendre la vie traditionnelle de mes ancêtres. C'est gravé dans mon cœur. Je suis à l'aise que quand je suis dans le Sahara, quand je regarde mes montagnes, mon paysage, qui change jour par jour. Sur mon écran, le Sahara. Donc je suis scotché devant mon écran.
Entre les mers de sable,
entre les mers de
sable, les cailloux,
et les
cailloux, dunes.
Et les dunes. Et surtout, de temps en temps, tu entends le souffle du vent. Tu m'as fait penser à des moments inoubliables que j'ai vécu avec mes grands-parents dans le désert. Et j'aimerais toujours revivre ces moments inoubliables. On regarde les étoiles autour du feu. On prépare le petit thé. Le thé du soir, on dit. On reste autour du feu pour raconter des contes, des charades, des devinettes. Et surtout avec les bruits des animaux autour de moi. Les chèvres, les brebis, les chevreaux, les cabris et les chameaux, les chamelons. C'est vraiment mieux qu'écouter la musique. C'est la musique préférée de Sidi Ahmed.
C'est la musique du désert.
Voilà.
Et ça fait combien de temps que tu n'étais pas venu ici avec des touristes ?
Bon, j'étais la semaine dernière, mais avant c'était ça fait 10 ans. 10 ans. Allez, on y va.
On continue.
La Drar vient de traverser une période de région sinistrée depuis l'arrêt brutal du tourisme après l'assassinat des 4 Français à Lac. Et donc 5 jours plus tard, le 29 décembre 2007, c'est très marquant pour nous les Mauritaniens. C'est pourquoi on retient si bien cette date qui a été le malheur pour cette région, l'annulation du Dakar. 3 vols allaient se poser dans la Drar avec 660 touristes. Et le lendemain de l'annulation, il y en avait 50 qui ont maintenu leur arrivée à Tar. Ensuite, bien sûr, des événements se sont passés. Hervé, qui a été assassiné en Algérie en 2015.
Hervé Gourdel, un guide français.
Donc Hervé Gourdel, malheureusement, s'est fait assassiner dans le pays des Kabyles en Algérie, l'impact se répercute tout de suite sur la région et sur la Mauritanie. Mais aucun incident durant cette décennie ne s'est jamais produit dans la région de la Drar. Je pense que pour le ministère des Affaires étrangères, c'était plus simple de mettre tout en rouge pour dire que c'est interdit, il ne faut pas y aller. Donc la Drar et la Mauritanie ont souffert de ce qui se passe ailleurs. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une réalité qui est celle vraiment d'un effort sécuritaire de la part du gouvernement mauritanien, d'une vigilance extrême de la part des populations. Ces populations ont vu leur économie revenir et donc tiennent énormément à la protéger et donc veillent à ce que cette économie perdure.
Qu'est-ce qui s'est passé économiquement et socialement après cette fermeture de la Drar ?
Ça a été vraiment la catastrophe totale pour ces populations qui ont dû fuir, qui ont dû donc abandonner leurs oasis, leurs villages et autres. Je vous donne un exemple de chamelier. Le travail du chamelier, par exemple, lui permettait de laisser sa famille là où elle est, dans le désert ou dans les oasis, lui permettait d'avoir un revenu. Si nous comparons, par exemple, un travail de 6 jours de 2 chameliers avec 6 chameaux, ils ont entre 200 et 250 euros sur les 6 jours. Alors que le SMIC n'est que de 100 euros en Mauritanie. Donc vous imaginez que si 2 chameliers font 2 semaines sur 1 mois, c'est qu'ils ont entre 400 et 500 euros, ce qui leur permet 5 fois le SMIC. Et donc ces 2 chameliers vont nourrir 7-8 autres familles. Là, du jour au lendemain, cette économie s'arrête, tout ceci se perd, et donc elle se traduit par la catastrophe totale. C'est incontestable que ça a été une catastrophe totale pour les populations, de manière à fuir ces milieux-là, de manière à se retrouver au milieu des grandes villes, voire même des bidonvilles dans les grandes villes et autres. Et donc, vraiment, c'est l'un des plus mauvais souvenirs de l'histoire de cette région.
Parce que là, au pied des dunes, on vient de tomber nez à nez avec un troupeau de cabris.
Voilà.
Tout autour de nous.
Des moutons et des chèvres. Et on a quelques chameaux.
Il y en a partout, il y en a quoi, 200. Elles sont en train de manger dans les buissons.
Et surtout, regarde, ils cherchent des feuilles, des acacias.
Qui sont tout secs.
Ouais, tout secs.
C'est des troupeaux qui appartiennent à des nomades, c'est ça?
Oui, c'est des troupeaux appartenant à des nomades qui sont là en train de chercher des pâturages. Donc ils sont presque en transhumance. Assalamu alaikum. Ya Klebas. Ya Khar. Oh, je t'arrive. Tout le monde est
là. Bonjour.
Ya Klebas.
C'est votre troupeau qui est juste là?
Ya Allah.
Vous avez combien d'animaux?
On a un qadar. Comme?
Il a dit environ 300. Il a dit que sache qu'il n'y avait pas assez de verdure, donc il vient chercher de l'herbe à chameau qu'on appelle sbat. Donc ils vont rester ici pendant 4 jours. Donc c'est leur vie. Ils font 2 mois ou 3 sur la même place. Et après, ils vont chercher un endroit où il y a plus de verdure, plus de pâturage, et ils vont se déplacer après.
Vous vivez de l'élevage, en fait?
Donc, l'élevage, c'est leur économie. Donc, ils sont là, donc avec leurs troupeaux de chèvres et de moutons. Soit ils font d'huile qu'on appelle dhun, et en même temps, ils vendent le lait quand il est sec, qu'on appelle gar chez nous. Et puis ils vendent les moutons quand ils sont gros et gras. Et donc c'est leur fortune.
Et vous êtes combien dans votre famille?
Alhamdulillah,
environ 7 à 8 personnes dans la famille.
Et dites-moi, ça fait combien de temps que vous n'avez pas croisé de touristes dans le désert?
Ça fait 7 ans ou 10 ans qu'ils n'ont pas croisé des touristes. Et là, ils sont contents de faire ça. C'est-à-dire qu'ils vendent quelques brebis ou quelques chèvres.
Pour la viande.
Pour la viande, pour les groupes. Et surtout encore pour les chameaux, comme on a des circuits de trek, donc on a les chameaux qui portent les sacs, donc c'est-à-dire qu'ils louent leurs chameaux, et en même temps ils sont eux-mêmes embauchés comme des chameliers, et tu as encore leurs femmes, leurs sœurs qui vendent des petits objets comme les bracelets, comme les cherches. Donc il y a une vie, il y a une vie.
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci.
On reprend la route.
Si loin, si proche, tous les
les voyages sont sur RFI.
Bon, vous êtes prêts, vous avez de l'eau sur vos petits sacs à dos, vous avez tout ce qu'il faut.
C'est beau quand on se retourne.
Ouais. Avec quelques... un panorama super vaste.
Avec quelques acacias, ouais. Par-ci, par-là.
C'est vrai qu'on se demande comment l'homme fait pour vivre dans un paysage comme ça, mais tout sec, tout aride.
Pourquoi t'as choisi de venir en Mauritanie, toi, Marie ?
En fait, j'en avais beaucoup entendu parler par mes parents, qui avaient fait ce type de voyage plusieurs fois à la fin des années 90, au début des années 2000. Et là, j'ai vu que les vols repartaient. Et je me suis dit que c'était la bonne opportunité d'aller voir cet endroit qui est fascinant et qui me fascinait. Après un premier moment, on est un peu époustouflé parce que tout est immense, tout est aride, on est dans un endroit d'extrême. Je pense qu'il faut aussi un petit peu de temps pour savourer, pour apprendre à aimer, parce que là, c'est beau, c'est saisissant. Je pense qu'après, on aime ça différemment petit à petit.
Et t'avais pas d'appréhension à venir après 10 ans de fermeture ?
Alors ça, non. Je me suis quand même un peu renseignée sur ce qui se passait géopolitiquement dans le coin, un peu où on en était, quand même. J'ai eu quelques petites remarques d'un genre un peu intrigué, interloqué. Soit parce qu'ils savaient pas qu'effectivement ça avait rouvert, soit parce que effectivement Mauritanie égale Acmi, égale danger, quoi. Au-delà du danger du désert. Donc effectivement, ça a surpris quelques-uns, ça en a fasciné d'autres.
Et qu'est-ce que tu penses de cette action, justement, de Maurice Freund, qui a tout fait pour rouvrir la Drar mauritanien ?
Ben, en tout cas, c'est vrai que c'est un travail acharné, apparemment, de ce que j'ai pu en voir. La fermeture de la destination a ramené de la pauvreté, alors que ça avait fait mieux vivre pas mal de monde la décennie précédente. Donc ça peut être que positif, surtout que dans un monde globalisé où les gens... Il y a plein de gens qui quittent leur pays pour arriver en Europe pour plein de raisons. C'est bien aussi d'aller dans ces pays-là pour qu'eux puissent continuer à vivre dans ces pays. C'est un tout petit pas, c'est une goutte d'eau. Mais je pense que ça y contribue un peu, quoi. Les Mauritaniens, je pense qu'ils sont mieux à vivre chez eux. Ils partent pas pour le plaisir d'aller dormir sous des ponts à Paris. C'est ce que j'avais dit à mes collègues. Ma motivation principale, c'était de voir le Sahara. Mais ça contribue, le faire dans ce contexte, etc. Je pense que c'est positif.
C'est important que ce soit ces mêmes populations locales qui nous fassent découvrir ce désert.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Que ce soit notre guide Sid Ahmed ou les chauffeurs. Parce qu'un petit groupe de 7 personnes, comme ça fait travailler 4 personnes directement. Et sans doute plus. Entre ce qu'on consomme, la petite vendeuse que l'on croise... On n'achète pas toujours, mais bon, ça fait du plus. Après, je pense pas que ce sera une destination avec des millions de personnes. Jamais.
On va peut-être rattraper le reste du groupe. On grimpe des roches pour arriver au sommet de la passe, en fait. C'est-à-dire qu'on a changé de décor, en fait, on est
là,
plus
on
sur un décor de canyon.
Là, voilà, on voit le paysage de la vallée blanche, loin de la Bière.
Des dunes à perte de vue, des deux côtés, devant nous et derrière nous.
Actuellement, tu es entouré par des dunes. Elle souffle un peu pour te dire... On a des dunes qui chantent. Tu montes la dune et tu descends et tu entends le bruit de la dune qui chante, la musique. Ah, ça, c'est des chansons magiques.
Et du chant des dunes à celui des hommes, il n'y a qu'un pas. Tout de suite, c'est Nassan de la Mauritanienne Nouramit Semali sur RFI.
Vous vendez des bijoux, de l'artisanat.
Ils vendent dans les coffres, ils vendent dans les bracelets, ils vendent les bracelets argent, ils vendent dans les croix, ils vendent des porte-clés, ils vendent des théières, des verres, ils vendent dans les coussins, ils vendent les pieds
c'est
de
table. C'est vous qui faites ça?
On a acheté les bracelets, on a acheté les croix de Gadès. Avant, dans des ans, il n'a pas trouvé les touristes, c'est un grand problème. Pour moi, toujours habiter ici, ne pas trouver les bandits, c'est tranquille. On est arrivé ici, pas de problème. Ça, c'est il faut la langue, discuter comme ça, c'est rien. Maintenant, en Mauritanie, c'est mieux. Il est arrivé le charter, il est arrivé le 4x4, on a tourné les touristes, il vient.
Si loin, si proche. Le magazine des voyages.
Au cœur du désert mauritanien, après 10 ans d'absence, les touristes sont de retour et les petits vendeurs de souvenirs aussi. Dans l'oasis de Tergit, où nous emmène à présent Raphaël Constant, Ali, le bien nommé, a donc étalé son trésor sur une natte à l'ombre des palmiers dattiers. Mais le vrai trésor, à Tergit, c'est surtout la végétation luxuriante, nichée entre des falaises ocres, que les voyageurs découvrent souvent à pied. Un sublime écrin de fraîcheur, de sérénité et de paix. Et sur place, c'est vrai que la paix n'est pas un vain mot. C'est aussi une affaire de dignité pour le peuple mauritanien, comme on l'a entendu dans la bouche d'Ali. Aujourd'hui, l'Adrar, c'est l'un des derniers et des plus bels endroits du Sahara où on peut encore randonner à pied. Et avant la fermeture de la destination au tourisme en 2007, les trekkers ne s'y étaient d'ailleurs pas trompés. Ils étaient près de 15 000 par an à fouler le sable de l'Adrar autour des années 2000. En 2018, pour cette reprise, ils ont été 1100, c'est un début. Et parmi ces voyageurs de sable, il y a Marga, espagnole d'une quarantaine d'années, à qui le désert avait beaucoup manqué.
Enfin, le Sahara, je suis allée en Algérie, un peu au Maroc, Tunisie, Libye. C'est toujours le même morceau, c'est justement que c'est coupé, mais coupé par les frontières, mais c'est le même désert. Puis aussi, je suis allée en Jordanie, un peu le désert du Thar, Mongolie aussi. La Mauritanie, ça fait plus de 10 ans qu'il était fermé. Je voulais venir avant. Deux fois, j'ai fait une tentative, mais j'ai pas eu la chance. D'abord, c'était le travail, puis c'était la fermeture du pays. Et dès que j'ai vu qu'il y avait une chance avec moi en Afrique, je me suis dit, c'est le moment.
T'es une amoureuse du désert, un peu.
J'adore. Pour moi, c'est les paysages parfaits. Quand on trouve beaucoup d'arbres, de verre, il y a des gens qui adorent le verre, je me perds. Il y a trop de choses à voir, mais on ne voit pas l'horizon. Ici, on voit toujours l'horizon. Il est toujours loin.
En fait, c'est le sable, le soleil, le vent,
oui.
La roche.
La roche, les couleurs, comment les couleurs elles changent, comment les vents font changer tout dans un coup. Dans un petit ensemble, tu le vois que ça bouge devant toi. C'est l'espace ouvert, là où je peux vraiment réfléchir, trouver plutôt mon âme. Avec très peu, on peut faire tellement de choses, tandis que chez nous, c'est le contraire. On a besoin de beaucoup de choses pour ne faire rien. Ici, on apprend à survivre, à jouer ce qu'on a, même si c'est petit, et à, bon, pour ceux qui sont croyantes, à remercier Dieu pour ça. Et je remercie la nature, je remercie la vie. C'est ici que tout dure. Tandis que ailleurs, tu as l'impression que tout va changer à cause du progrès. Et ça, ici, c'est que le temps reste, s'est arrêté. Tu le vois dans la façon d'agir des gens, mais surtout dans le cœur des gens, qui sont accueillantes, qui sont calmes, qui prennent son temps pour faire tout. C'est pas de courir, d'avoir un téléphone, la meilleure voiture, non. C'est la calme, s'écouter. Écouter les vents, écouter le cœur, écouter les autres. Être solidaire, quoi. Ça nous manque dans le monde, beaucoup.
Il y a un désert pour tout le monde, tu crois?
Ouais, absolument. Il faut y essayer quelquefois. Si tu veux chercher dans toi, pour moi, le premier point, c'est le désert. Ça va t'échanger, j'en suis sûre.
عليك السلام عليك عليك
Donc, les habitants de Tanoushut, ce soir, ils sont en train de nous organiser une petite soirée. Là, ils nous chantent des chants traditionnels, des chants sur l'ange des prophètes.
Il y a plein d'habitants du village de l'oasis de Tanoushut qui sont arrivés sous la tente avec des tatams. Il y a des femmes, des enfants, des hommes. Tout le monde est ensemble sous la même tente.
Voilà.
C'est le chef du village qui mène la chanson.
Voilà, c'est le chef du village qui mène les chansons. C'est lui qui débute et pas les chansons. Tanoushut, c'est une oasis qui se trouve entre Ouadan et Chinguiti, en plein désert. Donc ça a été vraiment construit par un certain Chikali, le premier à essayer de planter des palmiers qu'il a emportés de Ouadan et de Chinguiti. Et donc petit à petit, on a une petite oasis.
Dans le jardin de Cher Ali, le chef du village. Et on slalome entre les palmiers, plus ou moins verts.
Salam
alaikum.
Salam
alaikum.
Salam alaikum.
Salam
alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum.
Donc il a dit, les vieux, quand ils sont dans leur jardin, ils préparent ce thé. Il est en train de faire son thé. Il veut qu'on partage avec lui. Parce qu'en Mauritanie, quand on passe vers une famille, donc il faut qu'on prenne le temps, parce que nous, on a le temps. Et vous avez l'heure. Et donc, il faut qu'on prenne les trois T. Les trois J. Jma'a, Jar, Jmar.
Alhamdoulilah.
Cher Ali, c'est vous qui avez créé l'oasis ? Quand et pourquoi ?
J'ai tourné en 2000. J'ai tourné de l'ordre.
Donc, il t'a dit qu'actuellement, on est sur une place où il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, lui, il est venu en 2000. Il essaie de faire quelque chose ici à Tanoushut. Donc, il a commencé à installer du kitit, des khaymas, des tentes ici. Et il a commencé à planter des palmiers.
Il y a combien de palmiers dans votre oasis ?
On a été comme on va introduire 7000.
6000 palmiers d'ici ici à Tanoushut.
Tanoushut فيها برك في الوقت الحالي فيها 30 خيمه للفتره اللي هي.
Tanoushut environ une trentaine de familles qui habitent actuellement à Tanoushut.
On est une فتره القيطنه تعود فيها 75 خيمه.
Et pendant le temps pour la récolte de dattes, il y a plus que de 75 familles qui viennent pour la récolte de dattes ici. La vie de Tanoushut, la vie quotidienne de Tanoushut, c'est un petit village qui vit les deux vies. Une vie nomade, avec des troupeaux de chameaux, de chèvres, des brebis, de l'élevage, et puis une vie agriculteur de récolte de dattes. Là, on voit des gens qui se déplacent vers les grandes villes à cause de leurs enfants qui vont aller à l'école. Mais, en ce qui concerne toujours les vieux, ils veulent toujours rester sur place parce que c'est leur vie quotidienne qu'ils connaissent le désert et la guette. Il a dit que le désert mauritanien, c'est un désert magique. Tu as tout. Tu as la tranquillité, la paix, l'hospitalité. Il est riche dans son cœur qu'il est là, à côté de ses palmiers. La vie est belle.
Donc, on a dit au revoir. زيكم ما شفتكم وانا ليل الزمان ما شفتكم.
Ça fait longtemps que je vous attends dans ce désert.
Shukran, shukran.
Merci, cher Ali. Et sur RFI, à présent, c'est Orange Blossom et Yassidi.
وسيلة رخيصة للتعبير، مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلى بسيرتي كتير، مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير.
Parmi les 14 anciennes villes de la Mauritanie, nous avons Modane, Singiti, Walata et Tichit. Singiti est entouré que par des dunes de sable. On a un petit vent aujourd'hui, il y a un peu de la brume, sinon tu vois un paysage splendide. Alicina, oh Singiti, oh merveille du désert.
Avec Sid Ahmed, notre guide et notre reporter Raphaël Constant, on arrive désormais dans le décor lunaire de la cité ocre de Shingeti, composée au milieu des dunes de l'ergue Waran. Shingeti, classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996 pour ses antiques bibliothèques du désert qui renfermeraient plus de 7000 manuscrits. Shingeti, septième ville sainte de l'islam aujourd'hui menacée par l'ensablement et historiquement centre stratégique du commerce caravanier. Aujourd'hui, les chameaux ont fait place au 4x4, mais le sens du commerce, lui, demeure.
Bonjour. Bon arrivée. Bon arrivée. Nous, je suis content. C'est les femmes de Shingeti, c'est moi, chérie à toutes. Tranquille, coopératif. Je suis content, les femmes de Shingeti, parce que tout va arriver aujourd'hui. Nous, je suis content.
C'est la gendarmerie de Shingeti ?
Ouais. C'est la base des gendarmes de Shingeti qui sont là de surveiller la sécurité des touristes. Et ils ne veulent pas que les gens s'approchent aux touristes, surtout les petites vendeuses, qu'on Quoi? Appelle avant les autocollantes.
Il y a beaucoup d'enfants parce que pour l'instant les rues étaient un peu désertes et là on est vraiment dans le coin.
On n'est pas loin de l'école. Hein.
Ah, c'est pour ça, on n'est pas loin de l'école, Sid Ahmed. Sid Ahmed, il y a combien d'écoles à Shingeti ?
Donc nous avons déjà 3 écoles ici, un collège, un lycée. On attend la cloche.
Qu'est-ce qui te marque à Shingeti, toi, Marie ? Mais je sais pas, alors c'était une ville mythique. En fait, c'est surtout une ville, là, ce qu'on vient de traverser, c'est une ville vivante. C'est une ville avec des gens qui la vivent au quotidien, avec leur commerce, leur petit bazar, leur... Et ce qui est rigolo à voir quand on découvre la ville, c'est le nom des commerces et comment sur les façades sont décrites les boutiques. Donc par exemple, on en a une... Boutique artisanale, il y a écrit « Comme chez Leclerc, Mahamout écrase les prix ». Et en face de nous, On a une boutique. C'est presque gratuit.
Moi, je peux parler avec toi.
Bonjour.
Bonjour, ça va bien. Nous sommes très contents pour les touristes à Shingichi. Parce que c'est un magasin pour les teintures. Quand il n'y a pas beaucoup de touristes, ça ne marche pas très bien. Parce que Shingichi, c'est une ville déserte. Il n'y a pas beaucoup de gens. Les gens habitent Noiribou ou Nouakchott. Il y a une grande plaisir avec quelques femmes qui travaillent ici dans une coopérative féminine. 15 personnes travaillent ici pour faire des foulards, pour couturier. Quand il y a un mariage ou bien une soirée ou bien une fête, les gens les achètent. Quand il n'y a pas beaucoup de touristes, ça ne marche pas très bien.
Avant, il y a des touristes. Parce que
les saisons, sous le tapis, vous venez de sortir un livre d'or.
Un livre d'or, il y a quelques mots français. Comme une poésie. Ça vaut ton nom. Moi, je m'appelle Ahmed Chérif. Regarde.
Altruiste et généreux, nous retiendrons ton nom, honorant l'étranger, ton âme hospitalière. Mérite l'amitié, efface les frontières et par-delà les déserts,
les vallées et les monts.
De très bons souvenirs nous garderons Claude et Mireille.
Très bien, ça, des amis français travaillent toujours bénévoles ici. Moi, je suis très content pour le touriste à Shingichi.
En 2005, 3 ans avant d'être à la retraite, j'ai décidé de m'installer ici.
À Shingichi.
À Shingichi, oui.
Et comment vous vous êtes rencontrés, Ginette et Sidi Ahmed ?
Par le circuit du train du désert. J'avais envie de faire un break. J'ai trouvé cette publicité. Découvrir la Mauritanie à bord du train du désert. Et voilà, je suis arrivée en janvier 2000. Et depuis, je suis revenue une fois, deux fois, trois fois. Je m'y suis sentie bien, les gens étaient accueillants. Moi, la France, j'étais à la fin de ma carrière, j'étais extrêmement fatiguée de la vie occidentale et j'avais vraiment envie de vivre autre chose, un autre rythme. Voilà. Je veux bien vous faire goûter mes confitures. On va aller se mettre là-bas dehors, on sera peut-être... Il fait bon.
Asseyez-vous, c'est bon. Et ça, c'est vos confitures, c'est vous qui les faites ?
Oui, tout à fait.
Avec les fruits de votre jardin ?
Avec les fruits de mon jardin, en partie. Les bissapes, les fleurs des hibiscus sont en partie cultivées ici ou dans l'oasis de Tekemkem. Et puis, les tomates de la marmelade du soleil sont d'ici, vous voyez.
Vous avez un magnifique jardin.
Merci.
Je vois des légumes, des fruits. Là-bas, il y a des fleurs. C'est quoi tout ça ?
Vous avez des haricots verts, vous avez du fenouil. Derrière, vous avez des poivrons, des aubergines, des salades. J'en ai sûrement oublié, j'ai répertorié que j'avais 25 légumes.
Et comment vous arrivez à faire pousser tout ça en plein désert ?
À partir du moment où vous avez de l'eau, il n'y a pas de souci. Je ne mets pas d'engrais, j'utilise simplement du fumier de chèvre, chèvre-mouton que je trouve ici à acheter. Et donc je distribue des semences à une centaine de personnes.
Comment vous pourriez décrire cette ville perdue dans les dunes de sable?
Disons que c'est extrêmement calme, les gens sont très pacifiques. Maintenant, c'est vrai que moi, ce qui me manque un peu, c'est une vie sociale et surtout culturelle, parce qu'il n'y a vraiment rien. Mais d'un autre côté, vous n'avez pas de bruit, vous n'avez pas de pollution, vous êtes dans votre jardin, il fait presque toujours beau, chaud. Enfin, c'est paisible comme vie. Mais bon, c'est quand même très très pauvre du fait que les touristes sont partis, parce que ça fait quand même vivre du monde. Et donc ça a vraiment été très difficile quand le tourisme s'est arrêté ici. Vraiment très difficile.
Et vous, en tant que Française, comment vous avez vécu cette période où le ministère des Affaires étrangères français a badigeonné la zone de la Drar en rouge?
Ici, on était sûr qu'il ne nous arriverait rien, qu'on était très très bien protégés. On recevait régulièrement des SMS nous demandant de rentrer à Nouakchott. On se sentait largement plus en sécurité à Shingichi qu'à Nouakchott. La police était extrêmement vigilante. Ils passaient voir si tout allait bien. Là, maintenant, c'est tranquille. Ils ne viennent plus, mais à cette période-là, ils venaient souvent. Et moi, ce qui m'avait le plus choquée, c'est quand j'allais au marché, c'est de voir les femmes qui faisaient leurs courses. Le peu de quantité de choses qu'elles achetaient, la viande, même pas un quart de livre, alors que je savais très bien que ces familles, elles avaient beaucoup d'enfants. Hein. Ça donnait juste le goût au riz. Hein. C'était vraiment très difficile, très très difficile. Vraiment, les Mauritaniens espèrent beaucoup du retour des Français. Hein.
Je m'appelle Mohamed Mahmoud Oldbeja, dit Mahmoud, comme tout le monde m'appelle. Donc là, je suis dans cette auberge que vous voyez. Donc c'est une auberge que j'ai construite en 2005. En 2005, le tourisme a été bien développé, il y avait beaucoup de monde, il y avait au moins 45 auberges à Shangiti, ces environs. Et il y a beaucoup de monde qui vient de partout. Et tout le monde est heureux, content, tout le monde investit, acheter de terrain, creuser des puits, planter des palmiers, des petites auberges, les artisans en profitaient, les nomades, les chameliers, tout le monde. C'est un domaine où que toute la famille trouve son boulot. Et malheureusement, on a eu en 2007, le Quai d'Orsay a décidé de donner la région de l'Adrar, zone rouge. Nous ici, on n'a pas compris pourquoi les tourismes sont arrêtés. Les nomades disaient, mais comment Mahmoud, comment fait-il que tous les jours, on a des mères et des tourbabs qui viennent de partout. On n'a jamais tué quelqu'un, on n'a jamais enlevé. J'ai dit non, pas du tout. Ce qui s'est passé vers le fleuve, à 1800 km d'ici, ils n'ont pas mis rouge. Ce qui se passe entre nous à Dibounokshot, on n'a pas mis zone rouge. Ce qui se passe à Madrid ou Paris ou Bruxelles, on ne les a pas mis zone rouge. À Dra, il n'y a aucun touriste mort, aucun. Je ne parle pas des frontières, Mali, Algérie, Niger. Les frontières, c'est toujours depuis même très longtemps. C'était des zones de trafic. Mais ces zones-là, nous, ça ne nous intéresse pas comme ça n'intéresse pas aussi les touristes. Donc, touristes qui viennent ici pour la culture du pays, pour le désert, pour la population. Donc, tout le monde investit. Il y en a qui ont été des commerçants, mais en même temps, ils ont investi dans les domaines du tourisme. Certains même, ils ont vendu leur maison. Ils ont abandonné leur boulot dans des grandes villes parce qu'ils ont trouvé que c'est l'économie la plus simple, facile, parce qu'il y a des changes de culture, il y a de l'argent qui rentre, il y a la découverte et tout ça. Et puis, un seul coup, tout a été arrêté. Il y a des familles qui sont parties dans les grandes villes pour chercher d'autres solutions de vivre. Quand on a eu le tourisme qui s'est développé il y a 10 ans, on était parti jusqu'à 5000 habitants à Shangiti. Tout le monde venait pour investir. Et quand le tourisme aussi arrêté, on a eu juste 2500 habitants. Certaines comme moi, comme je te dis, j'ai parti converti dans les bâtiments. Et après, quand tout le monde était au courant que les charters se reprennent le mois de décembre, il y en a même qui sont commencé à venir avant pour acheter des chameaux, des aubergistes qui ont déjà commencé à réhabiliter, nettoyer, entretenir leurs auberges. Et donc maintenant, on a vu que ça a augmenté déjà, on est dépassé 3000 habitants. Donc, à mon avis, on va encore commencer de nouveau.
En 4 mois, il y a déjà 1000 habitants qui sont revenus.
À peu près.
Aujourd'hui, parce qu'il y a 3 avions qui sont venus de l'Europe, hein, on fait la fête, mais ça va durer, on ne sait pas.
Ça est encore sur un fil, en fait.
Voilà. Mais en même temps, je me demande pourquoi on ne les aide pas à trouver une ressource, que ce n'est pas seulement le tourisme, que ce ne soit pas tellement temporaire. J'en suis sûre qu'on peut développer d'autres choses à faire. Et comme ça, si quelque chose arrive, qu'il n'y a plus de tourisme, il peut faire quelque chose d'autre pour survivre. Ce n'est pas justement touriste.
Tu crois que les touristes changent le rythme de vie des locaux?
Les tourismes changent tout. Le rythme, le prix. Les nettoyages, la façon de construire. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'eau ici. Si ça commence à venir des gens, des touristes, des grands groupes, où est-ce qu'ils vont trouver l'eau? Il faut penser à ça avant, hein, et leur apprendre avant une vie mieux dans le type de vie qu'ils ont déjà. Pas les changer le type de vie. Ça, je crois que c'est une erreur. Le tourisme, parfois, il fait plus de mal que de bien. Souvent. Et tiens, ils sont passés 10 années sans touristes. Ils sont là toujours. C'est vrai qu'ils ont souffert, mais ils s'évadent.
I'm
je m'inquiète pas pour les Sahara, vraiment, on est aucun souci pour notre désert, notre Sahara, nos habitants et tout ça. Pour moi, ils sont, on voit dans Mashallah des bons sens. La paix est là, il suffit que les gens viennent, donc j'espère que ça développe encore plus la région, plus qu'avant, quoi. J'espère que tout le monde trouve leur place, mais il suffit qu'on voit encore plus du monde encore pour qu'on reste, pour qu'ils nous fixent dans nos régions et qu'ils nous fixent dans nos coins désertiques.
Pour Maurice Fun, grand artisan de ce retour des charters dans la Drard, c'est justement tout l'enjeu de ce tourisme. Lutter contre la pauvreté et l'isolement des hommes du désert et leur permettre de se maintenir dans leur terre, leur désert. Pour Maurice et les autorités mauritaniennes qui ont largement soutenu ce retour, via notamment des allègements de frais de visa, cette économie servirait aussi de rempart contre le terrorisme. Fin mars, la saison touristique s'achève et l'avenir nous dira si la Drard, perle du Sahara, a bel et bien fini sa traversée du désert. Une chose est sûre, l'espoir renaît et surtout, le peuple du désert, digne et ouvert, n'a pas sacrifié son authenticité au passage des touristes. Merci à Raphaël Constant pour ce reportage. Merci aussi à Point Voyage, Sid Ahmed et toute l'équipe de Mauritanie de Voyage, Laura Larry, Raphaël Constant et Céline Develay-Mazurel. On vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, faites de beaux voyages.
Retrouvez Si Loin Si Proche en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur RFI.fr.